Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Je suis en compagnie de Philippe Coupet, moine zen et écrivain, et Luc Boussard, qui est moine zen aussi, et qui est éditeur de la maison d'édition de Versant Éditeur, et qui a édité le livre de Philippe Coupet, qui s'appelle Le Temple de l'Évanescence, qui est un petit peu le parcours d'un aspirant spirituel qui suit l'enseignement zen, et qui se débat dans une vie qui n'a pas l'air très simple. Le mieux que je puisse faire pour décrire un peu le livre, c'est de vous lire trois passages de l'introduction de Luc Boussard concernant ce bouquin. Donc c'est pas très long, je vous rassure. Donc en fait, c'est pas un moine zen typique, il n'est pas casé dans la vie. Il travaille tour à tour comme vigile et comme garde du corps d'une prostituée, laquelle le dénonce comme proxénète, ce qui lui vaut d'être arrêté et de passer en justice. Le récit abonde en péripéties, souvent drôlatiques, parfois très noires, mais d'aller le traverse en danseur ou en boxeur, qu'il pleuve ou qu'il vente, et que tout baigne ou que tout se détraque. Dans l'amour ou la bataille, il danse sans jamais perdre la cadence. Dans un autre passage de Luc, le héros se démène comme un beau diable pour trouver son chemin sans abdiquer, avec les cartes qu'il a en main et qui font de lui ce qu'il est. Il nous donne à voir un monde où la méditation, la vie est aussi un combat sans merci, où Janus a deux visages, où le grotesque et le sublime, l'enfer et le paradis ne se rangent pas dans des tiroirs distincts, mais sont les deux faces d'une même médaille. Et enfin, dernier petit passage, encore un mot pour finir, à l'intention de ceux que ce livre choque sous prétexte qu'il donnerait une mauvaise image du bouddhisme, c'est un reproche que je n'arrive pas à comprendre, sauf à réduire le bouddhisme à une sorte de piété bien pensante, faite de bonnes manières et de bonnes intentions, ce qui n'est certainement pas la conception que Dalès en fait. Voilà. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs de Radio Diwa.
Donc c'est un livre que tu as écrit. Est-ce qu'il recoupe une réalité? Est-ce que c'est ta vie que tu exprimes? Ou est-ce que c'est de la pure imagination, de la pure fiction? D'où est venu le besoin d'écrire un livre pareil?
Je ne sais pas exactement ce que c'est l'imagination. Je ne sais pas ce que c'est inventer. Et je sais aussi très bien ce que c'est inventer. On invente sa vie. Mais... Tu me demandes, tu fais une distinction entre ce qui était écrit et la personne qui l'écrit. Mais pour moi, un écrivain, ce n'est pas le cas pour tous les écrivains, mais moi, j'écris ce que je connais, ce que j'ai vécu. Je n'écris pas comme au début, quand j'écrivais dans les années 70, j'écrivais des histoires du style « un mercenaire Katanga ». Mais c'est totalement inventé et ça ne m'intéresse pas à la fin d'écrire quelque chose comme ça. On m'avait dit que si tu continues, Monsieur Coupet, tu pourrais être un grand écrivain. Mais vous voulez que je continue dans ce truc que tu appelles imaginatif, peut-être c'est ça. Mais j'ai décidé que si c'est ça être grand écrivain, ça ne m'intéresse pas personnellement. Ce que je veux, c'est parler de ce que je connais. Et de comprendre ce que j'ai vécu à travers un personnage fictif. Dali, tu n'as pas dit dans ton introduction que Philippe Coupet, c'est vraiment un alias à Michael M.C. Dali. C'est essentiel.
Donc M.C. Dali, le héros de cette histoire, n'est pas Philippe Coupet?
Bien sûr que non.
Donc ce n'est pas des péripéties que tu as vécues, que tu racontes dans ce bouquin?
Bien sûr que oui.
Supu, ça aurait pu.
Ça aurait pu quoi être?
Être autobiographique, ça aurait pu être autobiographique.
Et autobiographique, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Pour moi, est-ce que Louis Ferdinand Céline, bon, c'est pas tout à fait autobiographique, mais ça se joint très fortement dans ces deux classiques. Bukowski, est-ce que c'est autobiographique? C'est un grand talent. C'est des grands, grands talents qui transforment en mots ce qu'ils ont vécu, pas ce qu'ils n'ont pas vécu.
Ça me fait penser, c'est comme un peintre qui fait son autoportrait. C'est lui et c'est pas lui. Il l'a objectivé, il s'est extériorisé sur son tableau et toi tu t'extériorises dans tes romans.
Bon, mais alors, si c'est ça le cas, on pourrait dire, je prends la position de Louis, bon, dans ce cas-là, ça veut dire que la plupart des auteurs qui ne font pas des portraits d'eux-mêmes, ils parlent de quoi? Ils parlent pas d'eux-mêmes.
Ils parlent de machins qu'ils ont inventés, de petits trucs de gamberge, d'inventions.
D'où la question, est-ce que c'est de l'imagination ou est-ce que ça part de ton vécu? Alors, tu pars quand même du type d'expérience que tu as vécu. Ce héros ne t'est pas étranger?
Pas du tout.
Tu le comprends?
Ah, je le comprends, mais il faut dire une chose. Quand tu écris, quand j'ai écrit, et ça sonne mal, et je ne sais pas pourquoi, ça ne tient pas debout. C'est toujours Dali, hein, c'est le centre, le personnage central. Pourquoi ça ne tient pas debout? Parce que j'ai dit ce que je pense est la vérité. Et c'est pour ça que ça n'allait pas. Alors, à la fin, je change. Je dis l'opposé. Et quand je dis l'opposé, je dis vrai. Et chaque fois qu'il y a une scène qui bloque, je dis, mais pff, je n'arrive pas à m'en sortir. Et pourquoi? Parce que c'est linéaire. Alors, je dis exactement l'opposé de ce qui s'est passé. Mais ça va prendre longtemps pour arriver à dire l'opposé de ce qui est soi-disant arrivé. Et en disant l'opposé, je le trouve vrai. Tu comprends ce que je dis?
Pourquoi pas? Donc ce MC Dalla, il n'a pas une vie facile. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire ça de toutes les descriptions de personnages de méditants zen. Hein. C'est tous des drôles d'oiseaux, en fait. Hein. Je vais même aller plus loin. Par certains moments, c'est vraiment des gamins. Quand on voit dans le Seishin, ils se battent. Ils sortent du restaurant où ils font la queue, ils se battent. On peut être méditant zen et n'en être pas moins un drôle d'oiseau.
C'est vrai, c'est des gamins. C'est des gamins. Et je pense qu'une des raisons, ils sont beaucoup plus gamins que les fonctionnaires qui vont travailler à la poste, qui ont le même âge. Et pourquoi ils sont plus gamins que les personnes qui travaillent à la poste? C'est parce que peut-être ils sont dans une pratique horizontale et il faut qu'ils soient à zéro. Il faut qu'ils se renaissent. Et alors on trouve ces personnages... un peu enfantin, oui. À cause de la pratique de la voix.
C'est vraiment la pratique qui fait en sorte que l'âme d'enfant rejaillisse.
Je crois. J'étais jamais aussi jeune que dans la pratique. Avant, j'avais mes problèmes à New York, et des gros problèmes, hein, des trucs costauds. J'étais pas gamin comme ce personnage d'Ali, qui est devenu gamin.
Oui, on a l'impression qu'il est ballotté. Bon, il a des soucis financiers. Il sait pas très bien comment faire pour gagner de l'argent, même pour un moine zen, il faut bien manger.
Et pour payer le temple, surtout.
Et pour payer le temple. Et donc, tous les moyens sont bons. Hein. Garde du corps, il commence. Ensuite, il est chauffeur pour une prostituée. Et donc, il est en face de situations de vie que les personnes bien intentionnées pourraient juger. Et en fait, justement, là, encore une fois, on entre sur la fameuse dialectique que les moines zen sont au-delà de la morale.
Oui, mais je ne le vois pas comme au-delà, parce que ça fait supérieur et ça ne me voit pas. Il y a une certaine morale qui est presque une position qu'on t'a inculquée, ou une position personnelle, un jugement. Et cette morale-là, personnellement, ne m'intéresse pas. Et en tant que moine, certainement, ça m'a seulement confirmé qui je suis. Pas au-delà de la morale. Pratiquer Zazen ne m'a pas donné une autre morale. Un moral au-dessus d'un moral. Zazen m'a fait penser à qui je suis moi, m'a trouvé moi. Et un autre qui aura un autre livre qu'on pourrait considérer moi bien et moral et comme il faut. Ou outrageux, sacrilège. Honteux. Pas moi. Moi, déjà, je fais quelque chose, apparemment, sacrilège, honteux. C'était pas mon intention. Mon intention, c'est faire plaire aux gens et les montrer la voie sans que je le dis. Pour le mec ordinaire qui devient au-delà de l'ordinaire. Au-delà, c'est-à-dire, il se dévalise de ça en petit moi. En pratiquant ce que ce personnage pratique. Mais même ce personnage, il est qui? Il est le mec dans la rue qui doit manger, qui doit payer pour manger, qui doit payer son loyer. Et voilà aujourd'hui la moine. Voilà. C'est démerde-toi dans la société, pas dans le temple, pas dans le monastère, pas le curé. C'est fini ça. Pour moi, c'est fini. C'est le passé. Ah, les monastères, les machins, où tu es nourri, logé, puis j'ai le satori, mon œil. Je ne peux pas dire mon œil parce que y en a eu, le temps était différent. Les temps sont différents.
Non, mais par exemple, il y a un moment dans le livre, quand il commence à être le chauffeur de taxi de la prostituée, il a une discussion avec d'autres méditants zazen pour savoir si ça peut s'intégrer dans la voie de gagner sa vie de façon qui ne correspond pas à l'adage bouddhiste. Il faut avoir un moyen de vie correct. Donc il y a une discussion. Vont-ils tomber dans la morale? Oui, non, ça se fait pas. En tout cas, MC Dalai, lui, il le fait. Hein. Il se pose peut-être la question de savoir si ça se fait ou si ça se fait pas, si c'est bien ou pas. Mais il le fait parce que la réalité est que, en fait, il...
Il pose pas beaucoup de questions. Il a besoin de blé.
Il a besoin d'argent.
Il a besoin de l'argent. Et pourquoi? Pour pratiquer. Il faut qu'il paye son compte d'hiver. Il n'a pas de problème. Le moment qui fait pas mal à l'autre. Ça, c'est une forme de morale qui n'est peut-être pas que le mien. Et c'est ça qui m'intéresse, que ce soit un moral universel et illimité dans le passé comme dans le futur. Que... On fait pas mal à l'autre, et si possible, on les apporte quelque chose. Lui, il voit, garde le corps, en fin de compte. Et il se dit, moi j'apporte quelque chose. Et je gagne bien. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire ça longtemps.
Oui, c'est pas un travailleur, non.
C'est pas un travailleur, et il travaille pas parce qu'il est coincé dans la machine.
Il a pas un plan de carrière, il veut juste...
Il s'en fout de demain. Tout ce qu'il veut, c'est pratiquer là, maintenant. Et il s'en fout. Il ne voit pas sa future.
Il ne cotise pas pour la retraite.
Oui, il ne se voit pas à la retraite. Il ne pense pas à ça. Et ça, le Zen a amené ça. Non, le Zen l'a trouvé ça en lui-même. Il a pu, à travers le maître, trouver ça en lui-même.
Deshimaru, il nous disait que Zazen, c'est la plus haute des morales. Et si tu veux, nous, dans notre pratique, on a une morale naturelle. C'est pas une morale plaquée, des idées, des jugements, un code. C'est une morale naturelle. Un homme de la voie, il y a des choses qu'il fait pas, c'est tout. Kodo Sawoki, il disait, à chaque instant de ma vie, je fais exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ça c'est la plus haute des morales.
Il ne suivait pas l'écaille.
Voilà, il ne suivait pas l'écaille, les préceptes.
L'écaille, les préceptes, ça lui suit.
Mais néanmoins, si je me suis permis de réenclencher sur ce sujet, car pour moi c'est important, et d'autant plus que, pour rappeler à nos auditeurs, c'est qu'on a déjà fait un sujet avec Philippe Coupet et Luc Boussard, qui est toujours sur le site, et on avait déjà abordé cette morale, et c'est un sujet qui est central quand même. Effectivement, y a-t-il une morale immanente? Doit-on se référer à des principes édictés par la société? Non, ça doit être personnel. Et vraisemblablement, MC Dalai, donc, se débat dans un monde qu'il comprend de temps en temps, se demande s'il comprend comment ça marche. Mais il faut qu'il trouve une solution, et après, il avise, il est souple, en fait.
Écoute, il fait quelque chose qui est contre le moral du pays, de la ville, de l'endroit. Eh bien, peut-être il va en prison. Alors? Et peut-être il ne va pas en prison. Et alors? Il a l'argent, espérons, et voilà. Et il fait pas mal à personne, il apporte aux gens. Je reviens là-dessus parce que c'est un personnage qui ne peut pas faire mal. S'il fait mal, je le connais un peu. S'il fait mal, il souffre. Et il ne veut pas souffrir. En fin de compte, on écrit pour se livrer de la souffrance. Il ne veut pas souffrir. Alors, il ne veut pas que... S'il fait l'autre souffrir, il souffre. Là, on apprend dans la scène.
Néanmoins, à un moment, il dit qu'il est toujours aussi agité qu'à ses débuts. Par contre, ce ne sont pas forcément les mêmes idées. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours des tourments intérieurs assez aigus, hein, parce que c'est un personnage un peu excessif, hein, il y va. Mais par contre, il y a toujours des tempêtes mentales, mais ce n'est pas les mêmes considérations que... Voilà.
C'est vrai. Le monde, c'est là où, s'il y a changement... S'il y a un changement visé vers la voie, c'est la question cruciale. Bien sûr, c'est plus les mêmes pensées. C'est plus moi, tellement. C'est plus comme moi, ma famille, mon père. Mon père était un salaud, il me fouettait. Et il m'a déshérité. Mais maintenant, ce que je me regarde aujourd'hui, à travers le Zen, je me dis peut-être qu'il avait raison de me fouetter. Dali, Giliki, Dali. Et il a certainement mérité le fouet, non? Je suppose. Et pas seulement ça, qu'il soit déshérité. C'est la cosmos qui le déshérite. Ah, comme ça, il continue. Richissime. Il ne va pas continuer la pratique. Hein. Il n'y a jamais de richissime. Les sergents, on sait rien. Mais riche, pourquoi se lever le matin? On a tout, quoi. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas des grands acteurs, des grands stars qui viennent pratiquer. Ils font semblant de pratiquer. Alors, aux États-Unis, il y a, comment ça s'appelle? Et ça, bon, non, je ne me pas de nom.
Je me rappelle plus.
Mais ils sont dans le journal, tous ils pratiquent le bouddhisme tibétain, ou d'autres. Mais généralement, non. Pas, c'est pas les vrais pratiquants. Ils ne peuvent pas pratiquer. Ils sont dans un autre. Ils sont dans l'enfer des débats.
En tout cas, on ne peut lui nier à ce personnage une certaine combativité, hein, parce que la prostituée dont il faisait le taxi, à un moment, l'accuse de tous les maux de lui avoir d'être son maquereau, et il va en prison. La première chose qu'il fait, une fois qu'il est seul dans sa petite prison, c'est qu'il se met au travail pour lire son courrier en retard. Il sait qu'il est dans le chaos, mais il cherche encore, il se laisse pas faire, quoi. C'est beau, en fait.
Oui, j'aime bien comment tu le vois, j'ai pas forcément pensé à ça. Je pensais probablement à l'obsession qu'il a d'Ali. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas exactement, mais il est en tôle. Hein.
Oui, il est en tôle.
Et il a du courrier que les autres n'ont pas pu lire parce que c'est en anglais. Et toute son, comment dire, ses manœuvres qu'il veut faire pour duper les flics, parce qu'il faut les duper, sinon il est c'est finito. Alors, il faut les duper. C'était basé sur le fait que les éditeurs adoraient son travail. Alors lui, il regarde pour voir si peut-être ils ont bien aimé. Et ils ont dit, mais c'est de la merde, ce que monsieur Dali, il écrit là. C'est totalement le faux. Et alors, il dit, heureusement, il ne lit pas l'anglais.
Les flics, ouais. Heureusement, les flics ne lisent pas l'anglais.
Ouais. Oui, les flics ne lisent pas l'anglais. Mais à la fin, il se complaint parce qu'il il téléphone les éditeurs. Il téléphone Hefner, quoi. Non, c'est quoi?
Hugues
Hefner. Et là, il comprend, il téléphone les éditeurs, il dit, écoute, monsieur Coupeich, donc. Alors, lui, il est malin, et il dit, non, moi j'ai écrit sur un autre nom.
Et est-ce que cette réalité, donc là, tu la partages avec ton personnage, justement, la difficulté d'édition, le fait que tes écrits ne rencontrent aucun écho dans le monde de l'édition?
J'ai écrit depuis très longtemps. J'ai toujours été refus, sauf au début, quand j'ai fait imitation. Là, ils ont dit, continue, reviens l'année prochaine, on va tout éditer. J'ai laissé tomber ça. Et Dali, il ne connaît pas autre chose. Moi, je ne connais pas autre chose. Je n'ai jamais rencontré un éditeur sur une période de 30 ans, 40 ans, hein, qui a même, je les ai rencontrés beaucoup, mais tout de suite, ils regardent ça, et ils sont vraiment aucunement intéressés. Et avant, ils me voient, je suis bien, hein, je donne une bonne impression. Ils disent, on va prendre un pot et des trucs. Mais après qu'ils disent ça, pas une seule. Et Dali, évidemment, capture ça.
Je tombe sur un passage qui correspond à ça, et dans lequel il y a beaucoup d'autodérision, c'est-à-dire peut-être un problème d'estime de lui, de Dali. Donc il parle de ses rapports avec les éditeurs, il dit, l'idée n'a pas plu et il a été très mal accueilli. Un autre, Strawsberry Sandal, racontait des histoires encore moins faites pour plaire. Le héros, toujours M.C. Dali, utilisant son statut de moine zen comme couverture, se livrait au trafic de hashish à d'autres chameaux, du Pakistan jusqu'à Bombay, tout en prêchant et pratiquant le dharma, expédiait la cargaison en conteneur jusqu'au port de Manhattan. Voilà, donc il est sévère avec lui, quoi. Il aime se flageller quand il n'est pas dupe de...
Il n'aime pas se flageller du tout. Il aime apprendre. Il se regarde et il dit oui, je trafique quoi, pour être édité ou pour pratiquer. Il veut se mettre toujours en face de l'écaille, de l'épreuve. Mais à la fin, il fait lui-même ce qu'il doit faire. Il ne suit pas l'écaille, les préceptes. Il ne pense jamais aux préceptes. En fin de compte, pas voler. Qu'est-ce qu'il a à foutre de ne pas voler? Pas tuer. Mais il ne se voit pas. Pas tuer. Mais on est dingue de tuer, ou sinon on tue tout le temps, on marche sur les insectes, quoi. On n'a pas besoin de se préoccuper de ce genre de choses. Peut-être en prison, avec les assassins, on peut les donner ça. Et pas mentir, dis donc, pas mentir. Ça va pas, non? Pas mentir. Tu dois mentir pour pas faire mal à l'autre. Alors c'est mieux de faire mal à l'autre, de lui dire la vérité, oui, ta femme baise mon ami. Non. Il ne faut pas faire mal à l'art, il faut mentir. C'est-à-dire qu'on pratique zazen, on a la foi dans la pratique, dans le maître, dans l'enseignement. Et on a plus ce problème, on fait et c'est comme Luc vient de dire, que le Saraki disait, il ne se trompe pas. Il fait, il ne se trompe pas. Ce personnage fait et il se trompe, d'accord. Mais pas énormément. Il peut aller en prison, hein. Il peut le plus, il doit y aller. Il n'a pas de regret d'aller en prison. Il le connaît déjà un tout petit peu.
Néanmoins, ce que je voulais dire par le petit passage, c'est que les histoires, là, c'est apparemment, c'était un bouquin qui s'appelait Strawberry Sandal, où il met... Voilà, bah, en tout cas, c'est marqué là. Hein. C'est en tout cas l'histoire qu'il raconte d'un moine zen trafiquant de drogue. Il n'était pas obligé non plus d'écrire ça, parce que effectivement, les éditeurs traditionnels qui éditent des bouquins spirituels, un peu bien pensants, peuvent éventuellement, ils n'aiment pas beaucoup. Quoi. Ouais. Ça paraît logique quand même.
Ils n'aiment pas beaucoup qui, le personnage.
Ils n'aiment pas beaucoup d'imaginer un moine zen trafiquant de drogue. Ouais.
Ouais, mais tu sais quoi? Ça, c'est leur problème. C'est vraiment leur problème. Il faudra qu'ils viennent prendre un peu d'enseignement dans le compte d'Arma et il aura une autre idée.
Même un criminel peut être un homme de la voie.
Justement, toujours sur le chapitre des relations entre MC Daly avec ses éditeurs, moi, il y a plein de petits passages qui sont très drôles. En fait, c'est très bien écrit. Moi, j'ai bien apprécié ce bouquin. Donc, c'est un petit passage. J'étais quasiment sûr de me dégoter un éditeur cette fois. Je n'arrivais pas à imaginer qu'il puisse me refuser cette fois. N'importe qui, même un éditeur, est capable de voir ce qu'il a sous les yeux. Qui pourrait dire le contraire? Et si ce n'est pas le côté littéraire qui les accroche, reste le facteur pognon. Or, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se vend le mieux que ce genre de bon et honnête matériau zen de base, avec juste ce qu'il faut d'aventure, de sexe et de folklore? Tous les ingrédients réunis pour faire un film à succès, en somme. Justement, encore une fois, c'est un éditeur typiquement spirituel. Lui, il n'a pas besoin d'intégrer du sexe, de la drogue et du folklore. Et donc, c'est pour ça que ce genre de bouquin peut être dérangeant. Ça parle de spiritualité appliquée. Et pourtant, justement, cette dose d'autodérision, de liberté essentielle qui fait qu'il ne rentre pas dans les cases, en tout cas, ce héros.
D'abord, ce que tu viens de dire, je trouvais ça excellent. Je ne me souviens pas de l'avoir écrit. Je suppose que c'est le traducteur qui a lu, qui a fait que l'a vendu en excellent français, ainsi excellent anglais. Ok, ce que tu dis, c'est vrai que ça pourrait faire du blé, ce livre. Un éditeur qui a un peu de couilles, il pourrait faire beaucoup de blé. S'il a une distribution et il sait faire un peu de pub. J'ai travaillé dans les maisons d'édition. Tu connais, j'ai travaillé à Bantam Books, j'ai travaillé à Prentice Hall, à New York. Mais je n'ai jamais écrit pour le monde spirituel. Je m'en moque de le monde spirituel. Moi, j'imagine que je parle au type dans la rue. Mais le seul problème, c'est que des mecs dans la rue desquels je parle, ils ne savent pas lire. Merde. Je suis baisé dès le départ. Mais je ne parle pas pour un éditeur spirituel. C'est mon œil. Hein, il n'est pas éditeur, s'il est spirituel. Hein, il pratique quelque chose, eux, ils ne pratiquent pas. Et ce n'est pas pour ce milieu. On les envoie ça, mais imagine, on envoie ça à Shambhala. Ou un autre éditeur spirituel. Tu envoies tout le monde, mais je ne suis pas dupe. Pas seulement ça, je pense que ça pourrait faire du blé. Puis quelqu'un non spirituel décide de faire quelque chose.
Et pourtant, justement, c'est une bonne illustration d'une spiritualité vécue, assez humble. C'est-à-dire que c'est un type qui se débat avec la vie, son mental, et qui essaye d'être juste, assez honnêtement, mais ce qu'il dégage l'emmène dans des drôles de lieux, quoi, en fait. Et puis, il n'a pas d'a priori, en fait. Il vit les choses, mais il ne va pas en faire des grandes théories pour expliquer le truc. Il est assez, justement, un peu dans l'autodérision, quoi. Il ne s'auto-intoxique pas avec des grandes explications du monde, hein, ça, c'est sûr.
Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas s'il est dans l'autodérision, peut-être, mais il veut voir les choses aussi de le point de vue des autres. Mais il y a peut-être un peu d'autodérision, mais je ne cherche pas ça, je cherche à libérer le personnage, c'est-à-dire l'auteur qui écrit.
Ce n'est pas de l'autodérision, si je peux me permettre. Dans Zen, on dit Makumozo, pas d'illusion. Je crois que d'ailleurs la formule apparaît dans le livre. Mais ça, c'est vraiment le cœur de la pratique, c'est pas d'illusion. Il se regarde objectivement, il se voit tel qu'il est, et il veut vraiment ne pas se faire d'illusion sur lui-même. Mais c'est pas de l'autodérision, hein. C'est pas d'illusion.
Mais alors, pourtant, regarde, encore un autre passage du livre. En fait, il n'y a pas d'histoire dans le bouquin. Hein. C'est, enfin, il y a juste. Donc, il est au début, il a des problèmes d'argent. Il trouve un boulot de garde du corps pour l'ambassade américaine. Après, il trouve un autre petit boulot comme taximan d'une prostituée. Après, il y a un passage effectivement où c'est Chine, une session de zen qui dure un certain temps au château de la Gendronnière, qui est un haut lieu du zen en France. Et puis après, il y a la demoiselle là, en question, la prostituée, qui se venge et qui l'emmène en justice. Bon, par exemple, il y a des passages où moi ça me faisait penser à Léo Mallet, Nestor Burma. Vous connaissez un petit peu ? Ça vous dit quelque chose ?
Pas mal, mais...
C'est un auteur de polar, mais qui était reconnu par les surréalistes. C'était un vrai écrivain, il a fait un certain nombre de polars, Nestor Burma, Les Nouveaux Mystères de Paris, Les Mystères de Paris, et c'est très très bien écrit, des fois c'est un peu onirique, c'est super bien écrit, et c'est un peu noirâtre, c'est le Paris des années 50-60. La différence que je vois avec ce bouquin, c'est que dans les bouquins de Léo Mallet, il y a une histoire, il y a des meurtres, il faut résoudre les faits, mais sinon, au moment où il est dans la prison, j'ai noté des passages où c'est quasiment de la même écriture, c'est très bien vu, quoi. Et donc là, un autre petit passage... Ce n'est pas grand-chose en fait d'histoire, juste le train-train quotidien d'un bonhomme ordinaire, un peu comme l'auteur en somme, qui cherche à sortir du chaos, un sale bigondi d'histoire de putain, de sexe et de zen. Donc il n'y a pas d'autodérision, mais c'est quand même, il se fait pas d'illusion effectivement, oui, nous sommes d'accord.
Bien dit.
Il se fait pas d'illusion.
Il veut juste corriger, c'est un truc, c'est pas la Gendronnière où il va,
ah.
C'est il va à le temple de l'évanescence.
Ah, nos problèmes. Donc, est-ce que nécessairement, justement, avec la pratique du zen, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser qu'avec un certain nombre d'années de pratique, la vie de quelqu'un cesse d'être à ce point chaotique ?
Oui, oui, bien sûr, n'oublie pas, il a roulé sa bosse dans le zen, mais il n'est pas au bout. Hein. Ah, il a encore des années, et qu'est-ce qu'il va devenir d'Ali ? Ça va toujours être le chaos, parce qu'un livre, c'est le chaos. Mais il va, j'espère, un peu plus centré. Il faut qu'il commence à prendre des responsabilités dans le dojo. Et... Alors il va se calmer. Ça va se calmer, je suppose. Avec moi, personnellement, lui est beaucoup plus calme. Mais pourquoi il est plus calme ? Il est plus calme pour une seule raison, peut-être, on peut dire. C'est pas qu'il est au-delà de l'attachement. Ça, c'est encore des mots, je trouve. Très facile. Hein. C'est que quand il voit quelque chose qui lui vient, il ne laisse pas s'attacher à quelque chose qui va lui faire du mal dans son esprit. Il voit un truc qui arrive, une femme ou je ne sais pas quoi, ou un pile d'argent en plus de ce l'argent qu'il a, et il voit que cette femme en question n'est pas bonne pour lui. Il ne regarde plus la femme. Il s'en fout de la femme. Il regarde la femme, mais il pense à son survie, à son bien-être d'abord.
Quand même, il aime bien les poitrines opulentes, quand même. Est-ce que c'est bon pour lui, les poitrines opulentes ?
Il est bébé, il veut des nichons.
Oui, c'est ça, hein? Il vient des nichons, quand même, il aime bien ça.
Oui, hein? Il aime bien, mais il s'en fout, regarde. Il laisse passer, après il ne pense plus à ses nichons. Parce qu'il s'en fout, il n'est pas attaché. Il ne va pas devenir obsédé de ça. Mais... moi j'ai vécu ça, des femmes que j'aimais. Il y a une femme que tu aimes, mais aime, hein, et tu vois que c'est mauvais pour toi. Toi, ça veut dire que cet attachement est mauvais pour toi. Point. Alors tu fais très attention et tu essaies de t'en sortir le plus tôt. Pour aider les autres, si on peut parler comme ça, il faut d'abord aider soi-même, c'est-à-dire se protéger. Et voilà, alors les nichons, hein. Beaucoup de femmes se sont enflammées sur ces questions-là. J'ai eu un lecteur d'épreuve en version anglaise. Elle a haï le bouquin, elle a haï ses scènes. Et d'autres aussi ont haï des scènes. Et je trouve ça... Il n'y a pas d'hommes qui, jusqu'à présent, qui n'ont pas aimé le livre. Mais il y a des femmes. Hein. Mais à la fin, grâce aux femmes, je réalise quoi ? Parce que quand je fais ce livre, je ne vois rien de mauvais pour la femme. Rien. Je vois la femme traitée comme superbe. Mais eux, ils voient la femme traitée comme négative. Conclusion, je ne peux pas changer ça. je suis, grâce aux femmes, un écrivain masculin. Et il y en a. Je suppose que Bukowski, les femmes ne plaignent pas avec Bukowski. Hein, même Céline, ça va encore, mais Henri Miller, les femmes, ils ont autre chose. Et c'est grâce à eux que je vois un peu qui est le... Je dis ça avec un peu d'amertume, parce que je ne veux pas être un écrivain masculin. Ça n'a rien à foutre, masculin ou féminin.
Ouais, on t'accuse de misogynie. Bon, moi, le livre, je le connais bien, puisque je l'ai traduit, je l'ai édité. Je ne trouve rien de misogyne là-dedans. Mais vraiment, rien du tout. Je trouve que même la femme sort... Elle sort grande, forte, belle, elle n'est pas du tout souillée ou avilie, pas du tout dans ce livre.
Oui, mais on ne voit pas ça. Alors, il y a un feeling, il y a un ton. Peut-être les femmes qui m'ont expliqué ce qu'ils n'aimaient pas, ils ne savaient pas s'exprimer. Mais c'est tout.
Moi, j'ai un petit passage encore du livre qui est intéressant. Ouais. La tension que je ressens dans mon bas-ventre est en fait une nuisance, au même titre que les battements de mon cœur. Je sais de quoi il retourne. Le désir et la peur de ne pas obtenir ce que l'on veut. Mais savoir ne change rien à la chose, loin de là. Vous pouvez étudier le bouddhisme et pratiquer la méditation jusqu'à devenir tout bleu. Ça ne vous aidera pas à vous débarrasser du désir. En fait, c'est tout le contraire. Plus vous pratiquez et plus vous avez envie de baiser.
Eh ben, cet écrivain, il est fort. Non, là, je l'entends en français, je suis bouche bée. C'est bien, oui. Alors
non, mais très bien. En fait, méditer ne vous coupe pas de la source du désir, en fait. Au contraire, on devrait être plus proche à chaque fois qu'on médite de la source du désir, alors.
Je ne dirais pas comme ça. C'est toujours chaque personne est différente. Et chaque personne, par la pratique, et que ça peut être en pratique autre que le zen, ça peut être en pratique de vipassana ou tibétain. Pour moi, le zen, c'est le plus haut parce que je le fais. Mais la pratique, ça te débloque. Ça te débloque. Alors, tu as un désir. Quand les premières années que l'on faisait zazen, ou moins les hommes, et les femmes aussi, je crois, mais les hommes, ils faisaient zazen, et après, ils allaient baiser.
Pour en venir à cette histoire de morale, j'ai découvert ça dans ce bouquin, parce que donc, au dernier entretien que nous eûmes, il y a à peu près un an et des bananes, à l'époque, déjà, on avait noté que le zen était au-delà de la morale, puisque c'était une morale supérieure et individuelle, en fait. C'était pas, c'est qui ne relevait pas de canon de la société. Ouais. Et donc, j'ai découvert dans le bouquin ce que vous appelez les cailles. Les cailles, c'est effectivement, c'est l'octuple noble sentier, c'est ça,
c'est
ne pas.
C'est les préceptes.
Voilà, les préceptes.
Il y a 10.
Il y en a 10. Donc, d'accord, chez les zen, il y en a 10.
Les 10 commandements.
Les 10 commandements, voilà. Ne pas mentir, ne pas avoir de conduite sexuelle incorrecte, ne pas avoir un moyen de vie incorrect.
Ne pas s'intoxiquer.
Et un certain nombre d'autres qui sont tous un peu universels, en fait, hein. Théoriquement, si on les applique, les conflits internes sont censés diminuer. Si j'ai bien compris le...
Pas moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Alors, vas-y, explique-moi un peu justement comment ça... Parce que pour moi, c'est essentiel.
Je peux pas suivre un kai, je peux pas suivre un précepte.
Ah oui, tu...
Et le précepte doit me suivre. Je dis ça pas avec orgueil. Je dis ça avec le fait que j'ai pratiqué 40 ans. Hein. Je pratique tous les jours, ben, avec les autres. Je suis tout le temps là. Je viens d'une séchine. Un jour et demi, les cailles me suivent, et si je fais du mal, ah ben, je n'ai qu'à me regarder bien. Mais, tu vois, c'est après le fait, je vis d'abord. Et les cailles, les préceptes, les principes, l'enseignement, suit.
D'accord. Alors Luc, toi, en tant qu'éditeur,
t'en as... J'ai failli intervenir tout à l'heure, quand Philippe disait que son travail d'écrivain n'a rien à voir avec la spiritualité, qui veut parler aux gens de la rue qui ne savent pas lire. Moi, qui suis éditeur et qui éditais ce livre, je l'ai édité parce que pour moi, c'est le livre de la plus haute spiritualité que je puisse rencontrer. Parce que toute la vie de cet homme n'a de sens que parce qu'il pratique. C'est un pratiquant et il mène une vie de patachon, mais tous les jours, il va au dojo. Il suit complètement l'enseignement de son maître. Toute sa vie est orientée par la pratique. Donc, paradoxalement, pour moi, c'est un livre d'une très grande spiritualité. Même si ce n'est pas un livre bon dieuzard, béni oui, bien pensant, toute la vie de ce personnage, de ce patachon, totalement déréglé, sa seule boussole, c'est la spiritualité, c'est la pratique. Donc à la fois, c'est un livre complètement iconoclaste, mais c'est un livre complètement spirituel. Et moi, je ne l'aurais pas édité, je ne l'aurais pas traduit, s'il n'y avait pas eu ça. Si ça n'avait pas été un livre, le livre d'un homme de la voix. Donc pour moi, c'est un livre très spirituel.
Sans méditation, il aurait sombré dans la débauche ou dans le trafic d'armes.
Sans méditation, ce personnage n'existe pas et ce livre n'existe pas.
C'est sûr. Mais sans pratique, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui va finir un soir dans la rue. Je ne sais rien d'affaire. Si je ne pouvais pas être peintre ou écrivain, ou surtout moi.
Ou bandit, un grand bandit.
Ah, ça, c'est bien.
Oui.
Homme d'affaires
ou bandit.
Ou bandit, oui, c'est très proche.
Bandit légal ou illégal.
Et en plus, ce bouquin est rempli de petites phrases très sympathiques et puis de passages vraiment drôles, en fait. Hein. Là, j'en ai une petite phrase que j'ai notée, là. Quand le chemin se termine, contente-toi de continuer d'avancer. Il n'y a pas de but, il faut continuer à avancer, quoi. Il n'y a pas de terminus.
Quoi qu'il arrive, il faut, quand tu sors du lit, tu mets le pied en avant. Disons le pied droit, ça ne veut rien dire, mais tu mets le pied droit et puis tu mets le pied gauche. Puis peut-être tu tombes dans le trou avec le troisième. Et après, tu sors le trou, tu grimpes et tu recommences. Oui.
Et en ce sens-là, je suis un petit peu d'accord avec Luc en disant qu'effectivement, ce qui ressort de ce bouquin, c'est qu'effectivement, la spiritualité n'est surtout pas découplée de la vie de tous les jours. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le moine zen, il ne se réfugie pas dans le temple en disant « Ouh là !» Non, il faut qu'il trouve des solutions, il faut qu'il trouve de l'argent.
Il faut qu'il paye à manger, il faut qu'il vit comme les autres. Il n'est pas mieux que les autres. Et moi, dans le temple, hein, il est hébergé, il est dans un cerf. Et il a sa torée, bien parce qu'on a arrosé ses racines. Et on lui a donné à manger. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Pour moi, le zen qui vient en Occident, il faut que ça fonctionne dans la rue. Comme j'essaie de faire. Dans la rue, dans un terme vaste, parce que il y a le maître Glassman aux États-Unis qui fait zen dans la rue, avec les clodos. Mais c'est un peu spectacle. Là, c'est pas spectacle, c'est chacun de nous qui a la spiritualité en soi. Évidemment, le maître dans la rue, il a autant de spiritualité qu'un autre, mais il n'a pas développé, il n'a pas vu, il n'a pas eu l'occasion. Il est menotté par le système de la société.
Et par son mental aussi.
Oui, par son mental. Malheureusement, tout le travail, c'est là. Tout homme peut être libre. Tout homme, qu'il soit ouvrier ou... C'est difficile hein, pour un intouchable ou un ouvrier de se trouver la liberté, il faut dire.
Il y a une citation de Maître Deshimaru qui abonde exactement le Maître Deshimaru, donc qui est le maître de M.C. Dali, qui est mon maître aussi. Donc ça, c'est une citation extraite d'un de ses textes. Dans le zen, on ne se pose pas le problème de l'existence ou de la non-existence d'une substance, entre parenthèses Atman. On se pose les problèmes suivants. Que faire? Comment exister ici et maintenant? Comment vivre sur cette terre? Comment résoudre mon problème amoureux? Que vais-je manger alors que je n'ai pas d'argent? Comment résoudre les souffrances d'aujourd'hui? Et ça, c'est pas M.C. Dali qui le dit, c'est Tyson Deshimaru.
C'est impressionnant, je ne connais pas du tout de ce passage.
Effectivement, un aspirant spirituel espère se libérer des souffrances de la terre, il se fourre le doigt dans l'œil. C'est ici maintenant, il faut être heureux maintenant avec ce qu'on a. Mais ceci dit, quand même, ce personnage, bon, alors, de temps en temps, cette liberté qu'il revendique l'emmène dans des situations compliquées. Et peut-être, justement, s'il avait pacifié son mental, peut-être il lui manque encore une quinzaine d'années de méditation, il ne se mettrait pas dans des guépiers pareils. On a l'impression quand même qu'il a bonné au problème.
Chacun a son karma, c'est vrai. Mais quand il dit, il faut peut-être encore une quinzaine d'années de pratique, mais moi je peux faire, pas parler comme ça, je peux faire, bien que c'est moi qui l'a dit, je peux faire dire encore une quinzaine d'années de maturité. Parce que je ne sais pas la différence entre ouverture vers la voie et maturité. Maturité, c'est ouvert à la voie, je suppose. Mais c'est vrai qu'il est dans ses problèmes, mais c'est aussi pour écrire le livre.
Mais bien sûr, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de livre.
Ouais. Et c'est pour tout ça, c'est ce qui est inventé, c'est qu'il y a eu une ligne droite. Il trouve un boulot, il est dans la rue, il trouve un boulot, il faut qu'il paye le camp d'été, et puis après, il faut qu'il... de le conduire, puis il faut qu'il trouve encore parce qu'il est passé. Il y a une raison d'être. Mais dans sa vie, la raison d'être, c'est pour pratiquer. Bukowski, c'était pour aller au bar. Mais pourquoi pas? J'ai laissé un grand talent. Mais il y a toujours le bas. Il faut qu'il gagne du blé pour aller au bas. Et alors, c'est fiction. Ça, c'est fiction. Il arrive à la fin, il arrive, et finalement, il arrive au temple. C'est fiction parce que c'est organisé comme cause et effet, limité. Mais la vie n'est pas en cause et effet limité. On ne peut même pas savoir que ce qu'on fait là va nous amener là ou là. Est-ce que je suis clair ?
Très bien.
C'est très clair. Enfin, pour moi, j'espère que les auditeurs pensent la même chose.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ne pratiquent pas, tu vois, qui disent ça. Comme ton, notre ami Régis, qui ne pratique pas, il n'arrêtait pas de se régaler. C'est un homme qui a étudié la littérature, était en Birmanie, il nous téléphone. Il dit, je lis Dali, je sors en Birmanie pour une chose, il faut que je retourne vite fait à l'hôtel pour voir ce que Dali fait prochainement. Alors ça j'aime bien.
Oui, j'en reviens toujours à la même considération, c'est un autre passage que je me propose de vous lire. Je vivais seul, je n'avais guère de temps pour autre chose, rien que le boulot, le dojo et un peu d'écriture, un peu de dodo aussi, mais pas beaucoup. Ça me faisait penser à Don en train de déclarer que travailler jour et nuit sur une plateforme pétrolière, c'était la même chose que faire une séchine. Eh bien moi c'est pareil, travailler pour la pute, c'était la même chose que travailler pour Bouddha. Et pendant que tout le monde courait dans tous les sens, porte-moniteur et ailleurs, Don et moi, nous en tenions au zen pur et inaltéré des maîtres de Madawaki et Yakumatsu en tout cas. Il ne fait pas de séparation entre l'enseignement dans la séchine, dans le dojo, avec travailler pour une pute qui pourtant pourrait, pour les rigoristes ou les pisse vinaigre, pourrait être considéré comme étant...
Attends, les rigoristes et les pisse vinaigre, il faut leur rappeler que la pute, il la protège. Il empêche les voyous, les macros, de l'agresser.
Il travaille quand même extrêmement bénéfique.
La protège, cette fille. Et d'ailleurs, elle l'a embauchée pour ça, parce qu'elle a vu que c'était un type solide en qui elle pouvait se fier. Et elle l'a embauché, elle le paye pour la protéger. Et c'est le boulot qu'il fait.
Oui, mais quelqu'un de plus petit, plus carré, n'accepterait pas de faire le taximan et le protecteur d'une pute.
Bien sûr, je crois que le personnage va au dojo pour chercher quelqu'un pour le remplacer. Ils étaient fauchés, ils avaient besoin d'argent eux aussi. Et si je me souviens bien, ils ont dit « Oh non, c'est trop dangereux en fin de compte. »
Ils ont toute une discussion sur le mode de vie correct. Est-ce que c'est correct par rapport au bouddhisme de travailler pour une pute? Et justement, y en a qui s'arrêtent à ça, à la moralité,
c'est
pas bien. Et puis lui, il le fait parce qu'il a besoin d'argent et qu'il est dans la réalité en fait.
Tu sais, quelqu'un que je respecte beaucoup, après Deshimaru, en tant que maître, c'est Étienne qui est mort. Et Étienne, qui était au courant que j'allais au procès. Ça c'est vrai, ce qui s'est passé avec moi aussi. J'étais devant le juge, je me servais du bouquin de Deshimaru que j'ai écrit, La Voix de la Vallée. Et je disais à Étienne, je vais m'en servir de ce bouquin, je vais le donner au juge. Mon avocat va le donner au juge pour dire, vous regardez, M. Coupé, il écrit sur le bouddhisme. Regardez son livre, Le Maître Zen, Deshimaru, qui était à Paris, à Pernetti. Et Étienne a dit, Philippe, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas amener le zen et le bouddhisme et Deshimaru dans un cadre pareil. Le prison, le taule devant le juge, au palais de justice, où tu es traité comme proxénète, si j'ai bien compris. Et je le respectais beaucoup et je le respecte toujours, mais ce n'est pas moi. Et je suis parti en disant, c'est exactement l'endroit où est le zen. C'est ça que je voulais capturer. Le personnage d'Ali est au tribunal. Et l'audience, et c'est les personnes qui ont apprécié le plus cette situation, c'était les coupables, les gens dans l'audience, là, qui allaient passer devant le juge aussi. Mais avant la scène que je viens de décrire, il y a le salon du livre, il y a tous les littéraires, il y a le milieu spirituel. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est pas intéressant. Ce que Dali représente dans La Voix de la Vallée, et le personnage se permet à dire aux autres éditeurs qui sont là, vous m'avez refusé ma fiction aussi. Et ils ont dit, c'est de la merde, la fiction. Hein? Ce n'est pas ce que j'écris, n'est pas pour les éditeurs, et ce n'est pas pour les gens spirituels.
Les professionnels de la spiritualité.
Ceux qui gagnent de l'argent avec la spiritualité.
Je vous refais un petit passage qui est amusant encore. De retour à ma bonne vieille planque, je reviens à mon bon livre zen, histoire de ramener mon esprit à l'ici et maintenant, avant que Rosa se pointe. Quand tous les phénomènes sont vus comme dénués de substance, lis-je à voix haute, il n'y a ni illusion, ni éveil, ni Bouddha, ni être sensible, ni naissance, ni extinction. J'ouvre une chronambour et avale une gorgée en songeant combien j'aime cette phrase. Oui, c'est comme dit le maître, tout est vide. vide.
Tout est vide, vide.
Vide, tout est vide. Donc même la Cronenbourg est vide.
Oui, bien sûr. Bien sûr, puis j'imagine s'il ne boit pas un Cronenbourg dans cette situation où il est, c'est triste, hein. Ah, c'est difficile. Hein,
ce qui pas fait. De publicité pour les marques sur Radio Divoire.
Non, mais il y a vraiment des perles dans ce bouquin en particulier. Là, il y a un petit passage. C'est comment reconnaît-on un bouddhiste ? Donc ça, c'est dans le bouquin. Et c'est Édouard Conze, le champion des bouddhologues, écrivain à ses heures et autorité reconnue, a écrit un jour que l'on reconnaît un vrai bouddhiste à son comportement calme, à sa contenance sévère, à sa démarche gracieuse et à son bon caractère. Autant de traits dont, nous assure Conze, les moines zen occidentaux d'aujourd'hui sont totalement dépourvus. Et je me dis, waouh, ras-le-bol de ces bondieuseries.
Oui, ça me paraît pas mal. C'est grâce à la traducteur tout ça.
J'ai rien inventé, tout
non,
ce que...
D'abord, un traducteur, un bon traducteur, il crée lui-même. C'est lui, c'est toi, c'est moi évidemment, parlons pas de ça, c'est toi. Même plus important que ça, en tant que, pas traducteur, mais en tant que Luc Boussa, c'est toi, tu m'as aidé énormément, parce que j'avais aucun auditeur, j'avais aucun éditeur, j'avais aucun agent littéraire, il disait que c'est mauvais, je suis découragé totalement. Parce qu'on se décourage, moins de scène aussi, avec les baffes qu'on reçoit. 40 ans hein, de baffes, 40 ans. Avant, il y a 50 ans, on disait « vous êtes extraordinaire », ce que j'ai inventé. Je parlais des histoires d'amour, l'homme d'affaires qui veut être succès. Mais grâce à Luc, il m'a poussé à continuer. Je lui monte un chapitre et il dit « oui, ok ». Le problème, c'était qu'il traduisait tout de suite. Et je ne voulais pas qu'il traduisait tout de suite.
J'allais trop vite. Ouais.
J'allais trop vite. Je voulais juste qu'il me dise super, puis attends le prochain chapitre. Il se mettait au boulot. Mais ça m'a beaucoup aidé.
Moi, je vais me passer un peu de pommade aussi. Philippe, il n'a jamais réussi à devenir un écrivain apprécié des éditeurs de ce milieu-là. C'est un écrivain raté, disons, d'une certaine façon. Et moi, je suis un traducteur raté, parce que moi, je suis traducteur professionnel, et j'ai toujours rêvé de devenir le traducteur d'un grand auteur. Et bon, je ne vais pas raconter toutes mes péripéties de traducteur, mais ça a failli arriver. Il y a des auteurs que j'ai chopés aux États-Unis, que j'ai ramenés en France. Mais je me suis fâché avec les éditeurs. Et donc, finalement, je suis devenu le traducteur de MC Daly. Et je pense que notre forme de coopération, notre forme de travail auteur-traducteur est exemplaire. On a vraiment réussi à faire une équipe où ça fonctionne très très bien, avec un retour continuel dans les deux sens, quoi. Et effectivement, quand je traduis MC Daly, je me sens complètement libre. C'est-à-dire que je suis totalement fidèle au texte, totalement fidèle à l'esprit de l'auteur, au ton, à la musique, à... Mais j'y mets ma patte. C'est une traduction personnelle, c'est pas une traduction neutre. C'est pas traduit par ordinateur.
Mais t'imagines, c'est traduit par quelqu'un qui connaît, pas seulement moi, mais qui connaît Daly, parce qu'il est là, il est dans le bouquin, il est un des personnages, il était toujours un des personnages. Il connaît les circonstances, il connaît la situation, il connaît le lieu, il connaît le zen, il pratique comme moi. Et c'est un des meilleurs traducteurs. Alors, qu'est-ce que je peux trouver de mieux ?
Il y a quelque chose aussi que je trouve qui est bien rendu sur le côté absence de clinquant et anti-spéculatif du zen. Je vous explique. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, par mon parcours, de rencontrer un certain nombre de gens qui mettaient leur esprit et leur vie même en danger parce qu'ils suivaient un enseignement qui leur promettait monts et merveilles, de se battre à des niveaux intergalactiques contre des forces qui, dans la Terre, etc. Et qui s'échappaient de la réalité, en fait, et qui, un jour, finissaient par le payer. Là, c'est vrai, dans ce bouquin, il n'y a que du très pratique. Le type, il a que ça en tête, à part donc qu'il le sait, que la pratique de Zazen structure sa vie, et que pour lui, c'est très important, mais sinon... C'est vraiment un bonhomme lambda qui cherche des solutions et il va pas spéculer, il se bat pas contre Shiva ou il fait pas des rituels un peu franc-maçonniques. Ouais, il y en a tellement des gens qui se gargarisent de leur pratique. La pratique, enfin d'après ce que j'ai vraiment senti dans ce bouquin, la pratique c'est maintenant, c'est tout de suite. Il n'y a pas à spéculer, c'est juste prendre la vie du bon côté et trouver des solutions.
Comment je fais ici et maintenant ?
Oui, ça. Mais aussi, il y a un autre élément, parce que le pratique, c'est là, ce personnage, il est totalement pragmatique, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose. Moi, je me souviens, je suis encore personnel, je ne peux parler que de moi. Avant de vouloir être écrivain, j'ai toujours voulu être écrivain, mais avant ça, qu'est-ce que je voulais ? Pourquoi je voulais être écrivain ? Parce que parce que j'avais des histoires à raconter. Oh, mais j'avais rien à raconter. Je croyais qu'il fallait inventer, alors je me suis dit, je vais faire comme les autres qui inventent. Non, ce que je voulais, c'est que je croyais que l'écrivain, c'était l'homme le plus haut sur cette terre. Je croyais ça. Et alors, je suis devenu écrivain pour être dans la voie de plus haut. Et quand je commence à connaître la vie de ces écrivains, moi, j'étais très choqué par le poète américain Robert Frost. Mais une beauté. Je suis allé à l'école privée en Angleterre, Nouvelle-Angleterre, et il venait de New Hampshire. Et ce poète écrit sur la neige, et sur les montagnes, et sur la liberté. Et il n'y a pas de no fences, pas de barrière, tout est ouvert, l'amour. Et ce monsieur Frost était un monstre. Il battait sa femme, il battait ses enfants, il était d'une brutalité inouïe. Qui m'a fait comprendre deux choses. Une, c'est que l'écriture, tu peux sortir tes trucs, lui il le sort en positif, il se met joli dans le monde. Kennedy, le président Kennedy l'a invité à la Maison Blanche avant sa mort pour qu'il montre le plus grand poète de beauté, d'amour des États-Unis. Et ce type-là était un monstre. Je savais parce que j'étais à l'école là où il vivait, dans le New Hampshire. Et après, je commençais à me dire, mais Louis Ferdinand Céline, c'est pas le plus joli non plus. Henri Miller, écoute, je connais des gens qui ont connu Henri Miller. Et les descriptions que j'ai de Henri Miller, que j'ai beaucoup admirées, c'est, je parle des gens que j'admire. Henri Miller, on m'a dit, mais il n'était pas du tout un baisseur. Il n'est pas du tout comme ça. Et j'ai dit, eh ben, écrivain, ce n'est plus mon idéal.
Même Rabelais, que tu aimes beaucoup.
Ah oui, Rabelais, qui déteste les femmes. Alors, entre guillemets, j'imagine qu'il se sert de ça pour les questions de création. Mais je voulais être d'abord pas écrivain, pas moine, pas curé. Tu imagines curé dans un monastère en portant des robes. Il n'y a rien de plus répugnant pour moi. Hein? Mais je voulais être ce qui est le plus haut. Et pour moi, c'était le moins.
Oui, mais qui a besoin de choisir la plus haute vocation?
Moi.
Mais pourquoi faire? Qui es-tu pour avoir besoin de la plus haute vocation?
J'étais le plus bas. Je me vois peut-être, c'est là, c'est de quoi tu parles. J'étais le plus bas. J'avais des grandes difficultés dans ma tête. J'étais pas fier de moi. Tu démarres avec moi. Je veux faire le mieux.
D'accord.
C'est tout. Pas être le mieux, pas du tout. Mais c'était jamais trop prétentieux. Oh, quand on est jeune, on croit qu'on est tous le pape ou j'en sais rien. Mais c'est pas être en haut. C'est pas être Deshimaru ou Kodo Soraki ou Bouddha. C'est d'être là-dedans. Ça, c'est le plus haut. C'est pas être en haut ou la montagne qui est le plus haut. C'est d'être dans la montagne.
On peut toujours se poser la question de savoir quelle est la motivation essentielle qui motive un méditant. Il y a des gens qui méditent ou qui pratiquent une méditation sans vouloir véritablement changer pour le meilleur. D'ailleurs, pour le meilleur, qu'est-ce que le meilleur? Mais en tout cas, c'est peut-être pour être plus efficace dans ce qu'ils font. Ils veulent être un grand méditant pour réussir dans la vie, par exemple.
D'accord, d'accord. Ah, moi, c'était jamais réussir, c'était les femmes qui m'intéressaient. Alors, je voulais sauver les femmes là où il y a les femmes.
Et donc, tu pratiquais...
Et malheureusement, j'ai dit, je me suis trompé de voix. Parce que dans le Zen, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous dans le tibétain. Et alors, j'ai dit, merde, mais c'est trop tard, parce que j'ai rencontré le maître et j'étais beaucoup plus au-delà de trouver les femmes. Ou de succès avec l'argent, ou d'avoir, je ne sais pas, de devenir le président de la France. Alors, c'était trouvé, le maître Deshimaru dans cette lignée, c'est, tout était effacé, les femmes, tout ça, c'était plus important. Et c'était ta question.
Qui veut méditer, en fait? Parce que si je suis déjà ce que je suis, pourquoi irais-je faire un effort pour être ce que je suis déjà, en fait?
Oui, pour que tu te trouves. Dans le christianisme, je ne sais pas s'ils recherchent à se trouver eux-mêmes. Mais nous, dans le bouddhisme, on essaie de trouver soi-même. C'est pas qui est soi-même. On s'en fout de ce genre. Ça, c'est, on demande toujours ces questions, mais et dans les koans zen. Mais je m'en moque de ça. C'est de la philosophie.
C'est pas évident. Et donc pourrait-on dire de M.C. Dalek qu'il est réellement sur la voie, parce que malgré ses contradictions et les pièges dans lesquels il tombe, Parce qu'il continue à pratiquer, il est lui-même en tout cas.
Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver.
Ça, c'est sûr.
Mais il est dans la voie pour plein de raisons.
Et puis attends, il y a le troisième livre qui va arriver en plus, qui va nous dire ce qui est devenu M. Dali.
Le troisième livre va choquer tout le monde. Là, ça va être terrible.
Ça va être terrible.
Là, vraiment, j'ai l'air dans la tête. Là, alors là, ça va beaucoup encore plus loin. Ça, c'est le deuxième. Et Remède était le premier. C'était beaucoup de baise et de zinde. Là, c'est beaucoup moins de baise, mais c'est autre chose qui choque. Et le troisième, ça... si j'ai envie de le faire.
Si tu as le temps.
Si, je ferai le temps, mais je voudrais un peu là, trouver un professionnel, un éditeur qui dit écoute, c'est pas de la merde ce que tu fais, tu sais. Oui, oui, Luc, mais je veux quelqu'un qui a
déjà jamais réussi à vendre un livre, alors.
Oui, ils vont pas. C'est 10 lecteurs qui m'avaient dit hier.
Oui, concrètement, il y en a combien? Il y en a 10 alors? 10 personnes ont lu le livre
depuis il y a
quelques centaines.
Autant que ça?
Bah oui, on a vendu quelques centaines de tes livres.
Ah bon?
Plusieurs centaines.
Ouais, ok, une centaine. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème ici avec trouver éditeur ou pas. Si j'ai vendu une centaine, qu'est-ce que je veux de plus? Avec une centaine, tu as ce son, tu as un feedback d'une vingtaine. J'ai entendu que Yorg, qui était en train de lire, ouais, aime bien.
Il aime beaucoup Yorg.
Ah, il aime
même
pas
beaucoup, dit. Beaucoup. Je vais poser la question maintenant.
Oui, voilà, ouais. Il est en train de lire ce livre en question. Mmh.
En
il
anglais,
aime beaucoup.
Ouais.
En anglais, oui. Ah, je suis content. Mais voilà, j'ai du feedback. Mais un écrivain qui vend 20 millions, il n'a pas de feedback.
De toute façon, c'est sa fille qui va devenir riche. Quand M. Dali sera mort, sa fille va toucher des millions sur les droits d'auteur, les films, les bandes dessinées.
Quel cadeau empoisonné. Elle va devenir riche à cause de toi, elle n'aura même pas besoin de se battre.
Je crois que le traducteur va toucher, non? On n'a pas fait un contrat?
On a un contrat tacite.
Oui, oui. Non, écrit, on a passé du temps.
Ah, on a
un contrat où si moi je gagne, il gagne.
Ouais.
Voilà.
On n'a pas déposé chez le notaire, il faudrait peut-être.
Ah, oui, oui.
Bon, on pourrait parler pendant encore un certain temps sur ce livre. Je ne sais pas si on a réussi à rendre vivant le fait que ce livre est un drôle d'ovni. C'est à la fois spirituel, mais incarné, paroxystique et contradictoire, voire médiocre et excellent. Enfin, on peut y rattacher un certain nombre de qualificatifs. Ce bouquin est très bien écrit, donc il a été traduit par Luc Boussard, a été édité par Luc Boussard. Et vous pouvez le trouver donc à Mosaïque et le commander à deux versions éditeurs.
Pour commander le livre chez l'éditeur, il suffit d'aller sur le site deuxversantseulmot.com. Et d'ailleurs, je signale par la même occasion qu'un autre titre sort chez Deux Versants, que vous pourrez aussi trouver chez Mosaïque. Il s'agit d'un florilège de citations de maîtres de différentes traditions qui s'appelle « Laisse venir la merveille », qui sort en même temps, donc qui sera disponible aussi chez Mosaïque.
Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter à la suite de cette petite interview?
J'aime bien être interviewé par toi. J'ai quelque chose qui vraiment, tu sais comment faire parler. Donc, regarde, je n'arrête pas de parler.
Ce n'est pas habituel que tu parles tout le temps?
Non.
Tu parles jamais? Sauf avec moi.
Sauf avec toi.
Merci Philippe. Eh bien donc, merci à tous de nous avoir suivis, puis à bientôt. Merci, ouais. Au revoir.
Au revoir, merci.
Ah oui, notre occasion pour le troisième livre.
Oui,
on
pour le troisième.
On reviendra à Radio Divois pour le troisième livre.
Superbe.
Interview. 1 Terre View.
Okay, the bird.
L'interview du jour.